Je joins maintenant l'auteur, comédien, metteur en scène, directeur artistique des productions Ondinoc, Dave Jennis, pour parler de la pièce intitulée « La cendre de ses eaux ». Monsieur Jennis, bonjour.
Oui, oui, what is about? Oui, oh, bon lundi matin à vous.
Oui, est-ce que vous pourriez nous dire le titre de la pièce au grand complet?
Oui, c'est pas toujours facile à prononcer. Alors, Nitax Squadé Oamgol. Donc, Nitax c'est père et Squadé c'est le feu.
Okay.
Et Squadé Oamgol c'est les cendres. Donc, c'est une traduction un peu libre parce que ça ne se traduit pas les cendres de mon père, la cendre de ses os. Donc, c'est pour ça que la cendre de ses os, c'est la cendre de mon père.
Oui,
voilà.
La cendre des os de votre père.
Oui, voilà, voilà.
Et Monsieur Jennis ou Dave, est-ce que je vous appelle Dave ou Monsieur Jennis?
Oh, Dave, hein?
Okay.
Oui, Dave. Pas de vous, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous aviez envie de... Je vais vous appeler Dave, mais je vais vous voyer quand même.
Voilà, parfait.
Qu'est-ce que vous aviez envie de partager avec le public à travers votre création?
C'est une création qui ma foi, touche beaucoup l'aspect du pardon, de l'identité. Qui on est comme personne, comme humain dans une communauté autochtone, quand on est métissé, quand on est parfois repoussé par certaines familles, par certains clans. Cette question-là identitaire m'a toujours interpellé, puis la mort de mon père m'a amené à aussi me poser des questions justement sur la mort. Mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Moi, je crois qu'il y a une vie, qu'il y a autre chose. Mon personnage principal le dit, après la vie, il y a l'animal. Il y a cette réincarnation-là que je crois qui fait partie de la grandeur de cet univers-là. Mais c'est un texte qui aussi nous transporte dans mon bas du fleuve,
oui.
De naissance. Puis... toute la question écologique, environnementale aussi fait partie un petit peu du texte. La réalité des régions, les difficultés de choisir entre les emplois et l'environnement. Donc, il y a un gros contexte. C'est une histoire aussi de reconquête, justement, de sa culture, de sa langue. Et après 3 années, un des deux frères revient. Puis renoue avec ses anciennes habitudes. Puis à travers ça, on suit l'aventure.
Alors, c'est une histoire très intime, très personnelle, parce que vous abordez le deuil de votre propre père. Est-ce que le travail d'écriture a été long, a été difficile pour vous?
Je ne vous cacherai pas que j'ai pleuré souvent.
Ouais. Est-ce que votre père est mort récemment?
Non, quand même. Bon, comme on sait, le deuil parfois peut être très long.
Ben c'est le deuil peut être infini aussi, là.
Et voilà, deuil peut être infini. Moi, je pense qu'il est toujours là. C'est juste qu'à un moment donné, on s'habitue à le vivre et à vivre avec. Mon père est mort en 2008, et en 2017, j'ai commencé à réfléchir à cette histoire-là, et j'ai écrit pendant un bon 2 ans et demi. Le spectacle devait être joué au printemps l'année passée, en 2020, mais il a été reporté à cause de la COVID. Donc, mais ça m'a permis de retourner en écriture, et ce que j'aime dans mon processus, et ce qui me permet de le faire aussi, c'est d'être à la direction d'Ondinoc. On a une façon de travailler que je pense peut nous amener très, très loin aussi dans le processus.
Oui, il y a beaucoup d'improvisation.
Oui, c'est ça, beaucoup d'improvisation. Puis j'ai amené des acteurs avec moi pendant une semaine dans le bas du fleuve en 2018.
Ils sont chanceux.
Oui, justement pour être ensemble, vivre ça ensemble, puis créer des moments d'improvisation, filmés à partir de base, à partir de d'idées que j'avais.
Vous étiez où dans le bas du fleuve, Monsieur Jennis ou Dave?
Oui, trois pistoles.
Okay.
Donc, c'est mon lieu de naissance.
Ouais.
Et j'ai amené les acteurs dans des endroits un peu de mon enfance. Puis c'est là que le texte a commencé à se construire. Et de fil en aiguille, après ça, les acteurs, on s'est rencontrés à Montréal. disons que je suis un metteur en scène et un auteur qui est assez ouvert, qui donne beaucoup, beaucoup de liberté à ses acteurs. Le texte a énormément changé et a énormément évolué. Oui. Pour le mieux.
Et ça, ça peut plaire à des acteurs, puis ça peut aussi en insécuriser d'autres, mais...
Oui, c'est vrai, c'est très vrai, ça.
Comment ça s'est passé avec la distribution? Il y a un, deux, trois, quatre, cinq comédiens.
Ouais.
Des autochtones comédiens. Et des allochtones.
Oui, il y a des autochtones et des allochtones. Ça s'est très, très bien passé. Tout le monde a été... très ouvert, très à l'écoute. J'ai eu beaucoup de... On a eu de très belles discussions autour du texte, justement. Puis les acteurs disaient « Ah, ça, peut-être que j'aimerais le dire autrement. Je sais pas si à ce moment-là, il dirait ça. » Fait qu'il y a eu beaucoup de coupures. Il y a eu des rajouts. Mais j'ai eu des acteurs qui se sont vraiment donnés et abandonnés. Puis j'ai aussi amené une façon de faire ce spectacle-là qui est peut-être différente du théâtre habituel. Donc on est dans une espèce de zone très, très lente dans la mise en place aussi, dans les déplacements. C'est un spectacle qui calme, je pense, qui va calmer les gens. Oui, il y a beaucoup de ça. J'ai voulu amener ça aussi parce que je trouve que notre vie va vite, le théâtre va vite, et j'avais le goût de respirer, poser. Mm. Ça a été un défi. Ça a été le plus gros défi des acteurs, c'est de
ralentir.
De ralentir et de vivre les mots, les faire vivre ces mots-là. Parce que des fois, on dit le texte rapidement, puis on joue rapidement, on se déplace. Mais là, j'avais le goût aussi qu'il fasse voyager les gens, pour que les gens puissent voir ce bout du fleuve-là aussi.
Est-ce que vous pouvez nous les présenter, en quelques mots, là, les comédiens de votre pièce?
Oui. Alors, il y a Nicolas Gendron qui joue le rôle de Martin Kakitanich. Il y a Charles Bender qui joue le rôle de son frère, François Kakitanich. Il y a Nicolas Desfossés qui joue le rôle de Sébastien Thiénis. Marilyn Provost qui joue le rôle de Sophie Pelletier. Et j'ai Roger Wild qui joue le rôle du père, donc le papa Kakitanich, et qui joue aussi le rôle de l'homme ours, qui est une espèce d'esprit qui guide tous ces gens-là sur le bon chemin dans la pièce. Et j'ai aussi une super musicienne qui est avec nous en direct sur scène. Kira Charnetti, donc c'est merveilleux. La musique amène les acteurs aussi à vivre beaucoup d'émotions à travers l'histoire.
Et dans quelle langue la pièce est présentée?
La pièce est en français et en langue de Wolastoqui, la langue de ma communauté. Donc c'est aussi une chose importante, une part importante de mon processus d'écriture. J'essaie d'y intégrer la langue aussi, parce que c'est important que les gens l'entendent.
Parce que vous êtes d'origine Wolastoqui, mais c'est la même chose si on dit Malécite?
Oui, c'est ça, voilà. Wolastoqui, c'est le vrai mot. Malécite, voilà, c'est le terme que les Français ont donné.
Plus intérêts, facile à prononcer.
Oui.
Pour nous, en tout cas.
Mais Wolastoqui, c'est ça, c'est la langue Wolastoqui. Et on fait partie de ce texte-là. On l'entend. Parfois, elle est surtitrée, mais des fois, elle ne l'est pas. Donc, je donne cette liberté-là au spectateur de se plonger dans la langue, dans cet univers-là, et de s'y imprégner.
Vous dites qu'il y a de la musique pendant votre pièce. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi du chant?
Non, il n'y a pas de chant.
Non.
Il n'y a pas de chant. On a essayé et finalement, je trouvais que ça ne fonctionnait pas dans ce rythme-là, dans la production. Mais on l'a essayé, c'est vrai. Mais on a quand même de la musique chantée. Il y a du chant quand même. C'est pas des chants traditionnels. Mais j'ai travaillé aussi avec Caleb Johnson, qui est un Wolastoqui du Nouveau-Brunswick, qui est venu justement enregistrer des chansons parce que on ne pouvait pas l'avoir avec nous sur scène. Donc, il a enregistré des chansons avec Kira. Et les deux ont fait un travail fabuleux. Donc, les chants sont en Wolastoqui, il y a des chants français aussi.
Et ça se passe dans le bas du fleuve. Est-ce qu'on le ressent, le bas du fleuve, sur la petite scène de la licorne à Montréal?
Oui, moi, en tout cas, mes mots font en sorte qu'on le sent. Oui. J'ai demandé beaucoup, souvent aux acteurs de s'imaginer le fleuve quand ils jouaient. Et je pense qu'ils l'amènent très, très bien. Il faut dire aussi qu'il y a quelques projections qui nous amènent à voyager dans le bas du fleuve. On est allé dans des projections qui sont quand même sont quand même très artistiques. On peut difficilement dire où on est situé, mais elles font vivre le texte aussi. Mm-hmm. Elles font partie de l'histoire.
Est-ce que la mort de votre père a transformé l'artiste que vous êtes devenu?
C'est une bonne question, ça. On ne m'a jamais posé ça. C'est sûr.
Ouais.
Parce que mon papa, quand il est décédé, je commençais vraiment à vivre mon art. Et mon père a toujours été quelqu'un de très, très frileux sur le travail que je faisais.
Ah.
Pour lui, c'était pas
sérieux.
C'était pas ce que je devais faire. Et
qu'est-ce qu'il espérait pour vous?
Il espérait juste que je puisse vivre décemment. Et je vis décemment depuis longtemps maintenant. Je vis très, très bien de mon art. Je suis un choyé. Je suis sûr qu'il le voit et il le sait maintenant. Mais en 2008, j'ai écrit mon premier texte, Wolastoqui, qu'on avait fait au Prospero. Et mon père est venu voir ce spectacle-là. Et il est décédé 2 semaines après.
Ah oui.
Donc.
Mais au moins, il a vu.
Oui.
Une de vos créations.
Oui, il a vu mon premier texte. Oui. Il l'a entendu. Puis il est décédé après. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours été très, très présent comme auteur, comme acteur et metteur en scène.
C'est ça, vous avez...
Et maintenant, directeur.
Oui, vous avez plusieurs cordes à votre arc. La compagnie Ondinoc, ce n'est pas une compagnie qui est née hier ni avant-hier, là?
Ben non, 35 ans l'année passée, on est comme dans le 35-36, là, on est entre les deux.
Oui.
Oui, création de compagnie par Yves Thibault-Durand, Catherine Jonca et John Blondin à l'époque, en 84. Et moi, je suis rentré dans cette compagnie-là comme acteur en 2002 suite à une demande justement de Ondinoc qui cherchait des nouveaux talents, des nouveaux acteurs pour leur futur. Et j'ai écrit une lettre à Ondinoc. Parce qu'il fallait écrire une lettre expliquant pourquoi on voulait devenir un acteur et pourquoi on était intéressé par l'art de la scène. Et j'ai écrit une lettre et j'ai été invité à cet atelier-là. Et après avoir fait l'atelier pendant un fin de semaine à l'École nationale, un an plus tard, j'ai reçu un appel pour me demander si je voulais jouer dans un spectacle qui s'appelait Hamlet, le Maléfique, qui était un gros succès en 2004 aussi par la compagnie. Et j'ai dit, je me lance. Et j'ai toujours été, après ça, dans la compagnie. J'ai toujours resté proche, soit comme acteur, auteur et metteur en scène.
Alors, c'est vrai que c'est la première compagnie de théâtre francophone autochtone au Canada?
Oui, la première au Québec, au Canada, et c'est la troisième plus vieille au Canada.
Mm.
Donc, c'est une compagnie qui est encore... Je pense encore méconnu du public.
Tout à fait.
Mais quand je suis arrivé en 2017 en poste, j'ai voulu changer ça. Et j'ai trouvé que la meilleure manière de le faire, c'était aussi de pouvoir retourner en tournée avec mon spectacle. Parce qu'on dit qu'il ne faisait pas beaucoup de tournées. Puis c'était aussi des choix artistiques un peu plus grandioses. C'était des grosses productions. Et moi, je suis plus attiré vers les petites productions, les spectacles intimes. Donc, ça permet plus facilement de voyager puis de se promener.
D'être près du public.
Ça a fonctionné. Oui, d'être près du public.
Ben, merci, Dave Janis, pour...
Merci.
Pour la tournée, on peut aller faire un tour sur votre site Internet, j'imagine, le site Internet de la compagnie?
Oui, c'est à ondunoc.org.
Parfait. Mais
le spectacle commence ce soir à la Licorne jusqu'au 12 novembre.
Oui, on ira voir votre spectacle. Le mot de Cambronne, merci d'avoir été avec nous.